Le MAG de l'environnement, c'est le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude. Contact FM, Radio Balade, Radio Languedoc Narbonneau, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude.
Bonjour à toutes et à tous. Derrière le micro cette semaine, Pauline Van Leeuwen du CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Nous parlons aujourd'hui des rivières méditerranéennes. Le sujet est large, nous lui consacrerons deux émissions. Celle du jour sur le fonctionnement des rivières et une prochaine émission de votre MAG de l'environnement sera consacrée à leur aménagement. Mathieu Dupuis, bonjour.
Bonjour Pauline.
Vous êtes hydrologue au SMAR, le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières. Le SMAR, qu'est-ce que c'est ? Et vous, quel rôle vous y jouez en tant que chargé de mission hydromorphologie ?
Alors, donc le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, c'est un syndicat qui a plus de 20 ans maintenant, qui a été créé en 2002 au lendemain des inondations catastrophiques des 12 et 13 novembre 1999. Donc ça a été vraiment l'élément déclencheur de la création du SMAR. Il faut savoir que avant la crue de 1999, il y avait très peu de syndicats de rivières, très peu de communes qui étaient dans ces syndicats de rivières. Essentiellement, c'était souvent les communes de l'aval des rivières, mais toutes les communes du bassin versant à l'amont n'étaient pas inscrites dans des syndicats de rivières. Et donc le SMAR, donc, qui a été créé sous l'impulsion du président du département de l'époque, hein, Marcel Reynaud, et du préfet de l'Aude de l'époque, ont déjà commencé à structurer et à organiser la gouvernance de l'eau sur l'ensemble du département. Mmh. Et très rapidement, une organisation s'est mise en place où toutes les communes sont dans un syndicat de rivières. Et il y a une couverture, l'ensemble du territoire du département maintenant est géré, voilà, il n'y a pas de commune orpheline, tout le monde est représenté dans un syndicat de rivière structuré par bassin versant.
Et le fait d'être représenté dans un syndicat de rivière, donc ça correspond à quoi pour une commune ?
Bah, ça permet de bénéficier de toute la politique départementale de l'eau. Ça permet à travers les syndicats de rivières qui sont adhérents au SMAR de capter des subventions, de mettre en place une politique commune de l'eau.
À une échelle plus globale.
À une échelle plus large pour l'ensemble des adhérents. Mais peut-être je vais quand même revenir un peu plus en détail pour que les auditeurs comprennent bien le statut et un peu les missions du SMAR. Mmh. Donc le SMAR, c'est un syndicat mixte ouvert, donc qui regroupe le département de l'Aude et les syndicats de rivières du département. Mmh. Et donc le SMAR a un statut d'assistance, alors on dit d'assistant à maître d'ouvrage, c'est-à-dire qu'il met à disposition des techniciens de rivière, tout un personnel technique et administratif pour aider les syndicats de rivière, donc qui sont les véritables maîtres d'ouvrage. Donc ce sont eux qui lancent les travaux, qui lancent les études. Simplement, le SMAR les aide à coordonner, d'avoir une politique globale et commune, et puis les aide à aller chercher monter des dossiers, aller chercher des subventions, toute une aide technique.
D'accompagnement.
Voilà. D'accompagnement. D'accord. Juste pour finir, donc ouais. C'est donc le SMAR et donc à travers ses adhérents gère 6000 km² de bassin versant. Ça représente 2300 km de cours d'eau sur 419 communes. Donc plus que le nombre de communes audoises, qu'effectivement, comme on raisonne à une échelle cohérente de bassin versant, il y a des bouts de bassin versant qui sont sur les départements limitrophes, hein, Hérault, Tarn, mm-hmm. Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales. Donc les 7 adhérents donc du syndicat de rivière, je les cite quand même, donc le Fresquel, le syndicat mixte Haute-Centre, le syndicat mixte du Delta de l'Aude dans les basses plaines de l'Aude, l'Aber et Hérieux, donc qui ne fait pas partie du bassin versant de l'Aude, qui est donc l'Aber étant le second fleuve audois, les Corbières maritimes et la Haute-Vallée de l'Aude. Donc ça permet vraiment d'avoir une cohérence de territoire au niveau des programmes d'intervention.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc, hydromorphologue et les caractéristiques, en fait, des rivières audoises ?
Oui. Donc, pour comprendre l'hydromorphologie, peut-être qu'il y a une notion un peu compliquée pour le commun des mortels. Donc, l'hydromorphologie, c'est vraiment, ça vient du grec, c'est littéralement l'étude de la forme des rivières. Mmh. C'est une science dérivée de la géomorphologie, donc qui étudie toute la formation des reliefs, hein, mais à travers l'eau, quoi. Donc ça va être tous les phénomènes d'érosion, de création de rivières, de les différents styles de rivières, donc tout le fonctionnement des rivières, quoi.
D'accord. Et le fonctionnement justement particulier des rivières méditerranéennes et audoises.
Oui. Alors on est sur effectivement les rivières méditerranéennes et donc audoises ont des caractéristiques assez particulières, assez singulières dans le paysage français. Donc déjà c'est des rivières donc excepté à l'exception près du Fresquel qui naît dans le Lauragais à faible altitude, oui. Mais sinon c'est toutes des rivières qui ont des caractéristiques quand même assez montagnardes. Hein. Donc, on a quand même deux massifs montagneux, les Pyrénées et la Montagne Noire dans le département, donc les Pyrénées avec l'extension des Corbières. Et on a aussi une caractéristique essentielle qui sont qu'on a une pluviométrie un peu extrême qui sont dues aux épisodes cévenols, à la présence de la Méditerranée. Ces caractéristiques entraînent des spécificités qui vont définir les rivières torrentielles. Hein. Donc les rivières audoises sont vraiment des rivières méditerranéennes torrentielles. Donc la première caractéristique, le premier paramètre, c'est d'avoir des fortes pentes à l'amont des bassins versants, donc, ce qui est le cas avec les massifs montagneux. Donc une production importante de matériaux à l'amont des bassins versants. Hein. Des débits en crue extrêmes. Les gens se rendent peut-être pas compte, mais en fait, on a des rivières dans l'Aude qui sont plus puissantes que les rivières alpines.
Ah oui.
Oui. En fait, c'est vraiment dû aux épisodes de cévenols et aux pluviométries extrêmes. On a des débits en crue qui, rapportés à la taille des bassins versants, sont beaucoup plus importantes, par exemple, que les rivières alpines. C'est des rivières qui sont beaucoup plus puissantes. On en reparlera au cours de l'émission. Donc ça entraîne des rivières avec beaucoup d'énergie très puissantes, avec des vitesses de courant très élevées en crue, et donc évidemment donc des rivières qui causent beaucoup de dégâts sur les biens et les personnes lors des inondations.
D'accord. Et alors, juste en quelques mots rapides, pour les auditeurs comme moi, là, qui ont leur cours de géographie un petit peu lointain, pouvez-nous rappeler comment ça fonctionne en fait une rivière ?
Oui. Je pense que pour parler des rivières, il faut vraiment partir de la base, hein, et se rappeler ses cours de géographie à l'école primaire ou au collège. Toutes les rivières du monde fonctionnent de la même manière. Il n'y a pas deux rivières semblables, mais à la base, elles ont toutes le même fonctionnement théorique. Donc, une zone de un bassin versant. Donc, déjà, le bassin versant a un périmètre où toute la pluviométrie qui va tomber va partir vers un exutoire, vers un point bas. Donc le bassin versant, c'est vraiment le réceptacle de l'impluvium de la rivière. Donc à l'amont de ces bassins versants, là où on a les plus fortes pentes, la naissance des rivières, hein, que ce soit par des sources ou de l'eau de glacier quand on est plus sur les Pyrénées. Dans ces zones de sources à forte pente, on va avoir une zone de production de matériaux. Hein. Mm-hmm. Parce qu'il ne faut pas oublier, on y reviendra tout au long de l'émission, que une rivière charrie des matériaux. Les gens oublient que quand on part sur l'échelle longue, sur des millions d'années, c'est les rivières, hein, l'érosion qui a creusé les vallées. Et que donc tous ces matériaux qui sont arrachés aux montagnes,
dans les lits des rivières.
Ils se retrouvent dans les lits des rivières et ils filent vers la mer, donc à travers une zone de transfert, souvent les gorges. Et après, toute une zone de dépôt qu'on va appeler la plaine alluviale.
Les plaines alluviales, effectivement, sur lesquelles donc se déposent tous les sédiments.
Tous les matériaux et donc toutes ces plaines fertiles dans lesquelles on a développé après l'agriculture ont été créées par les rivières sur des échelles de temps de dizaines de millions d'années, quoi.
Last time I saw you. but you never wanted them that way. What a cruel price you thought that you had to pay.
De retour dans notre MAC de l'environnement, nous sommes en compagnie de Mathieu Dupuis, hydromorphologue, qui nous explique le fonctionnement des rivières méditerranéennes. Vous vouliez nous parler du lit majeur, du lit moyen, du lit mineur des rivières. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, c'est quelques définitions qui permettent de définir les espaces, les différents compartiments de la rivière. C'est vrai que pour les riverains et les gens, la rivière, c'est le lit mouillé, ce que nous, on va appeler le lit mineur. Donc l'espace où l'eau va couler 99,99% du temps, hors période de crue. Après, sur les rivières naturelles, on a un espace qu'on va appeler lit moyen ou espace de liberté ou bande active. Il y a tout un tas de définitions pour dire la même chose. C'est un espace, une interface entre le lit mineur et le lit majeur, qu'on définira après, où la rivière va déposer des matériaux, éroder. C'est l'espace où... que la rivière va envahir sur des petits coups d'eau et des crues moyennes. Et après, sur des très grosses crues, on a le lit majeur. Donc, c'est vraiment la plaine alluviale. C'est l'espace où la rivière a posé des alluvions pendant des millions d'années. Et donc, c'est là vraiment tout le fond de vallée. Et c'est vrai que les gens oublient que même si elle n'y va que rarement dans son lit majeur, hein, que lors des crues extrêmes, ça reste quand même le lit de la rivière. Et que quand on s'implante dans le lit de la rivière, voilà, il y a des phénomènes naturels auxquels on s'expose qui sont, comme je l'ai dit, naturels.
On lui prend un peu sa place. Hein.
On lui prend un peu sa place.
Alors, les rivières ont été de tout temps aménagées par l'homme. Comment ces aménagements ont dénaturé, en fait, ce fonctionnement naturel des rivières?
Donc c'est un vaste sujet. Hein. Je vais commencer vraiment par ce qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est que l'homme a aménagé les rivières depuis des siècles, hein, voire des milliers d'années. Quand vous voyez le pont du Gard érigé par les Romains il y a 2000 ans, toujours debout, donc avec quand même un art une maîtrise du fonctionnement des rivières et l'hydraulique. Voilà, vous comprenez bien que les rivières n'ont pas été sont aménagées depuis des temps très très anciens. Je vais juste donner deux exemples, c'est parce que les gens pensent aussi que les rivières sont aménagées depuis le lit ou depuis les berges. Mmh. Et en fait, ce qu'ils s'aperçoivent pas, c'est que la rivière, c'est le bassin versant, c'est le reflet de ce qui se passe sur le bassin versant, et toute intervention sur le bassin versant va avoir un impact sur la rivière. Je vais donner deux petits exemples pour que les gens comprennent bien. Par exemple, Aigues Mortes, donc dans le Gard, qui était une commune qui était au bord de la mer au XIIIe siècle, c'est là d'où sont partis les croisés, est maintenant à 5 km de la mer, parce qu'en fait, pendant toute la période du Moyen-Âge, et après tout le défrichement, tout le surpâturage et les érosions, la surérosion créée par l'homme, en fait, on crée une surérosion des Alpes du Sud, et la Camargue, c'est vraiment une création de l'homme, quoi. C'est l'impact sur le bassin versant, voilà. Deuxième exemple, Mont Aigoual, donc qui a été reboisé par un ingénieur forestier qui s'appelait Fabre, parce que le port de Bordeaux était complètement sablé, parce que le mont Aigoual avait été complètement déboisé, surpâturé, brûlé, et là encore, il y avait une surproduction de matériaux qui faisait que des centaines de kilomètres à l'aval, le port de Bordeaux était ensablé. Ils ont résolu ce problème en reboisant le mont Aigoual. Donc voilà, faut vraiment comprendre que l'homme a un impact énorme sur les rivières, un macro-impact, et que tout ce qui se passe sur toute modification du bassin versant a un impact au final sur la rivière.
D'accord. Donc, en fait, cet impact, notamment aujourd'hui, par la façon dont l'homme intervient sur les rivières, de différentes façons, qu'est-ce que ça induit, en fait ?
Normalement, une rivière devrait pouvoir se déplacer au fond de son lit majeur, donc dans les fonds de vallée, et après chaque rue, déposer des couches d'éléments, ce qu'elle aura arraché dans les vallées. C'est comme ça que se créent les vallées, la fertilité. Nous, on a arrêté ce cycle parce que les hommes ont commencé déjà, surtout en région méditerranéenne, à fixer les berges de rivières, à corseter les rivières, pour pouvoir mettre en place tout un tas de systèmes de canaux d'irrigation.
Corseter, on entend bien le mot corser,
dans
le fait vraiment de maintenir...
Empêcher la mobilité de la rivière pour pouvoir créer des seuils, ce qu'on appelle des penchères ici, pour tous les systèmes de canaux d'irrigation. Ça a été vraiment le premier impact généralisé. Ça a eu évidemment tout un tas d'effets pervers, mais pendant des siècles, même si les berges ont été fixées, la rivière avait encore accès à son lit majeur, et dès qu'elle débordait, elle envahissait son lit majeur, elle pouvait dépenser son énergie, donc il y avait quand même un moindre impact.
D'accord. La rivière était canalisée, mais elle pouvait encore déborder sans
la connexion lit mineur, lit majeur fonctionnait. Il n'y avait plus de lit moyen parce que l'homme a vraiment grignoté l'espace pour venir cultiver jusqu'au bord de la rivière, là où c'était les meilleures terres. Et ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, toutes les rivières françaises fonctionnent encore à peu près bien, même les rivières méditerranéennes.
D'accord.
Vous avez encore du saumon dans toutes les rivières, vous pouvez traverser tous les fleuves dans des passages à gué, on a encore des rivières de surface. Et après, c'est vraiment à partir de Napoléon et tout qu'on a commencé à chenaliser les rivières, à les draguer, pour la navigation, à vraiment transformer profondément le lit des rivières. Et là, on est toujours dans cette dynamique-là.
Je reviens juste sur rivière de surface.
Oui, c'est-à-dire qu'avant, les rivières étaient très peu profondes.
D'accord.
C'est-à-dire que vous traversiez encore au XVIIIe siècle la Seine dans des passages à gué naturels,
L'Aude,
à Paris,
j'imagine.
L'Aude, la Garonne.
D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, le fait d'avoir canalisé ces rivières, finalement, elles sont plus profondes, c'est ça que je comprends ?
Oui.
D'accord.
Ah oui, parce que soit sur une cause naturelle, parce que quand vous chenalisez les rivières, faites passer plus de débit, la rivière a plus de mal à déborder dans son lit majeur. Donc en fait, au mieux de dépenser son énergie en cru dans le lit majeur, elle va sur une zone d'expansion de cru, elle va dépenser son énergie dans le lit, donc elle va avoir tendance à creuser son lit. Et
d'accord.
Les hommes qui avaient très bien compris ce fonctionnement-là ont créé des épis, tout un tas d'ouvrages pour amplifier ce phénomène de creusement du fond du lit.
D'accord. Et le fait donc d'avoir creusé ce lit fait que vous me parliez d'énergie en fait concentrée, d'un flux plus rapide des rivières.
Alors ça a eu évidemment un effet très positif pour la navigation, tout un tas d'activités humaines, mais un effet très délétère au niveau du fonctionnement des rivières. Parce que le fait de chenaliser le lit, on a fait baisser. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'impacts.
Et de conséquences.
Et de conséquences.
De conséquences, notamment au niveau de l'augmentation des risques d'inondation.
par exemple, exactement, au niveau du risque d'inondation, au niveau de la qualité de l'eau, au niveau de tout un tas de services qui étaient rendus par la rivière, qui sont plus effectifs maintenant. Et ça a des conséquences très directes. Par exemple, la descente, l'incision du fond du lit des rivières, ça a un impact direct sur les ouvrages humains, sur le fait que ça peut déstabiliser des piles de ponts. Par exemple, dans le département dans le département de l'Aude, tous les ponts ont été repris une ou deux fois parce que, au fur et à mesure que le fond du lit de la rivière descend, il faut réajuster
les fondations des piles de ponts. D'accord.
C'est un impact sur les réseaux, c'est un impact sur la déconnexion des nappes d'accompagnement de la rivière. Vous pouvez vous retrouver avec un.
Donc les nappes d'accompagnement, pour qu'on comprenne.
En fait, ce qu'il faut s'apercevoir, c'est que dans le fond de l'année, dans le fond de la vallée, on est sur des matériaux alluvionnaires et c'est une immense nappe phréatique, en fait, c'est un immense réservoir d'eau. On voit que la partie émergée de l'iceberg qui est le lit mouillé, mais il y a une nappe d'accompagnement de la rivière.
Qui accompagne en fait la rivière sous terre.
Voilà. D'accord. Et donc avec tout un fonctionnement très complexe, mais c'est des nappes qui sont essentielles pour l'homme parce que c'est ce qui nous permet d'avoir de l'eau potable, de créer des forages, tout un tas de services essentiels pour l'homme qui peuvent être mis en cause par exemple les problèmes d'incision, des déconnexions de puits, de nappes, des fonds de vallée de plus en plus secs.
Un vrai impact en fait sur tout ce qui est captage aussi donc d'eau potable.
Oui, captage d'eau potable.
Africa, Africa. Africa, Africa niña, Africa nossa. Africa, 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 Africa niña, Africa nossa. Seu Jacques Larian, consciência já desanuviar. Já chega a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor, já calma cedo. Para bem viver na página progresso. Se não tiver fé na nossa capacidade, mãe África dá ser feliz um dia. África, 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 África minha, África nossa. África, 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 berço de mundo. Continente fecundo. Dikantek Senegal ka vermane soreul. Sumu yabone nyari rew yi ben la. Sama gente gi mangi ñaan yalla won mako. Afrika don ben rew ndax ya di suñu ya. Afrika, Afrika, Afrika. Jamanga yelo. Jamanga ifana. Africa, Africa, Africa. Jamanga yelo, te jamanga ifana.
Rivière, bassin versant, érosion, plaine alluviale, action de l'homme sur les cours d'eau qui ont perdu leur capacité de mobilité, augmentation du risque d'inondation. Bon, le sujet est dense, Mathieu Dupuis. En quelques mots, qu'est-ce qu'on doit retenir d'essentiel sur le fonctionnement des rivières audoises ?
Alors moi, ce que j'aimerais bien que les gens retiennent de cette première partie, c'est qu'on est sur des rivières très particulières, donc avec des fonctionnements de rivières de montagne. Même si on est en région méditerranéenne, qui a de moins en moins de neige et qui a pas d'eau dans les rivières l'été, on est quand même sur des rivières torrentielles avec des fonctionnements très particuliers. Que quand il arrive à un épisode cévenol et qu'il tombe 200, 300, 400, 500 mm en quelques heures, comme on le voit malheureusement de plus en plus, on a des débits extrêmes à faire passer, des débits très élevés à faire passer dans le fond de vallée, et que les gens, ils doivent accepter ça, l'intégrer, et pas être dans une espèce de déni. C'est vrai que souvent, moi, après les inondations, je vois les riverains qui me disent « Est-ce qu'il y a un barrage qui a lâché ? C'est pas assez entretenu ?» Non, c'est des phénomènes naturels. Quand il tombe plusieurs mois de précipitations en quelques heures, voilà, il y a des inondations, c'est un fonctionnement naturel. Comme ces rivières transportent beaucoup de matériaux, et ça, c'est des rivières de montagne qui ont besoin d'évacuer leurs matériaux vers l'aval, et ça aussi, c'est naturel, il faut que les gens le comprennent.
Merci Mathieu Dupuis, merci chers auditeurs de votre écoute. Je vous invite lors d'un des prochains Mag de l'Environnement à nous rejoindre. Nous parlerons de l'aménagement des rivières, comment faire pour retrouver les vertus naturelles en fait, de nos rivières. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Merci Philippe à la technique. Bonne semaine à tous, à bientôt.
C'était le Mag de l'Environnement, le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude, Contact FM, Radio Balade, Radio Lingodoc Narbouno, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude.